Le petit Émile Soleil, inhumé samedi plus d'un an et demi après sa disparition au Auvernais, des faits qui avaient ému la France entière. De multiples médias ont suivi la célébration religieuse. 80 personnes mobilisées hier devant le commissariat de gendarmerie de Sisteron. Elles répondaient à l'appel du collectif féministe. Une colleuse issue de ce groupe a fait l'objet d'une plainte de la part du maire de la ville, Daniel Spagnou. Allons-nous vers une évolution du service de soins d'urgence dans le département des Alpes-de-Haute-Provence? L'ancien ministre de la Santé, François Braun, a été missionné il y a quelques mois pour proposer des solutions. Les premières conclusions ont été présentées aux élus. Le président du COJO pour les Jeux Olympiques 2030, désigné avant le 18 février prochain, 5 jours après le retrait du candidat Martin Fourcade, les acteurs des prochains Jeux Olympiques souhaitent trouver le candidat idéal pour présider ce comité d'organisation. Une course de l'extrême dans laquelle est engagé un Ubaïen, Guillaume Grima. Le Français est juste derrière un autre tricolore, Mathieu Blanchard, sur cette course polaire, la Yukon Arctic Ultra au Canada. L'Ubaïen est deuxième à moins de 100 km de l'arrivée sur les 650 que compte cette course. Les obsèques du petit Émile Soleil se tenaient donc samedi. Sa disparition le 8 juillet 2023 au Auvernais avait ému la France entière. Ses ossements avaient été découverts 8 mois plus tard, le 30 mars 2024, par une randonneuse. Si aujourd'hui l'enquête se poursuit et si la lumière sur les circonstances de sa disparition et son décès n'a pas été faite, le petit garçon a été inhumé en toute intimité samedi après-midi à la Bouilladis, dans les Bouches-du-Rhône. Avant cela, une messe d'obsèques avait lieu au sein de la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le Var. Un événement suivi par de nombreux médias, mais aussi retransmis toute la matinée par les chaînes d'information en continu. Le reportage d'Aurore Valory.
Des caméras, des appareils photos, des micros, nombreux sont les médias locaux et nationaux qui ont fait le déplacement tôt ce samedi pour suivre durant la matinée les obsèques du petit Émile. Si certains viennent prendre l'ambiance pour des reportages ou des papiers en presse écrite, les chaînes d'information en continu sont en live. Une partie du parvis devant la basilique est à disposition de la presse. Les parents du petit garçon de 2 ans et demi avaient en effet demandé, par le biais de leur avocat Jérôme Triomphe, de ne pas filmer ni photographier à l'intérieur de la basilique pour, je cite, « préserver l'intimité de la famille ». Seuls les invités et le public peuvent assister à la messe. Discret, une centaine de gendarmes et de policiers s'assurent du bon déroulé. Sous la pluie fine qui tombe sans discontinuer, Alain, photo-reporter pour Nice Matin, Var Matin, doit faire toute une série de clichés qu'il enverra ensuite au journal.
Et là, on est bien parqué avec toute la presse. Il y a tellement de presse qu'on nous... Et surtout de presse télé. Il y a deux ou trois fois plus de caméras que de photographes. On est obligé de faire avec la sécurité qui nous oblige à rester à l'extérieur. On va essayer de faire au mieux. On essaye d'avoir un peu la famille ou quand ils vont sortir le petit cercueil, voir un peu le recueillement.
Alizé est aussi photographe. Elle travaille aujourd'hui pour le journal des Alpilles. Elle a eu des consignes claires de la part de sa rédaction. Action.
Surtout éviter de faire quelque chose qui rentre trop dans l'intimité, qui est trop proche en fait du cercle familial, donc éviter les photos qui sont vraiment où on va tout de suite capter de quoi il en ressort. Donc c'était plutôt prendre l'ambiance générale, voir qu'il y avait le comportement des gens aussi, si c'était très émouvant, si les gens voulaient s'approcher, rentrer, voilà.
Lui a suivi ce dossier, Émile, depuis sa disparition en juillet 2023. Marc Leras est correspondant à Marseille pour Le Parisien aujourd'hui en France. Il s'est rendu au Vernet dès le lendemain du drame. Il voit dans ce dossier une affaire qui parle à tout le monde.
Je pense que c'est une affaire emblématique aujourd'hui parce qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Mais surtout, c'est une affaire qui parle à tous les parents. En début d'été, les grands-parents qui surveillent un petit garçon, il disparaît. Pendant très longtemps, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un peu une angoisse parentale générale, cette histoire. La consigne, c'était vraiment de raconter ce qui se passait. Et ce qui se passait, ce qui était le plus évident dans ce qui se passait, c'était vraiment cet élan de solidarité. Puis là, aujourd'hui, c'est les obsèques d'un enfant. C'est quelque chose qui est extrêmement délicat. On va traiter ça avec le plus de décence et de respect possible. Après, on voit au vu de la mobilisation policière, etc., que c'est quand même un événement. Et puis les parents ont communiqué, donc ils souhaitaient qu'on soit là d'une certaine façon, donc on est là.
Et notez toutefois que dans le cadre de ce reportage, plusieurs confrères n'ont pas souhaité répondre à nos questions.
Merci Aurore, un reportage à retrouver sur alpin.com. Notez que ce n'est pas le glas qui a retenti à la fin de la messe, mais un carillon pour célébrer l'espérance chrétienne et la foi en la résurrection. Le clergé portait également des couleurs claires, contrairement aux messes pour adultes. La couleur liturgique est le blanc, symbole de la pureté baptismale. Un homme victime d'un accident d'escalade à l'Argentière l'a blessé alors qu'il évoluait sur une cascade de glace. L'alpiniste a dévissé sur 10 mètres pour une raison inconnue hier vers 13h. Victime d'un traumatisme crânien et de blessures aux membres supérieurs, il a été évacué par hélicoptère sur l'hôpital de Briançon. Et puis aux alentours de midi hier, le PGHM de Josy est intervenu sur le domaine skiable de Chabanon pour secourir un homme d'une trentaine d'années après une chute. Blessé au genou, le skieur a été pris en charge et évacué sur l'hôpital de Digne-les-Bains. 80 personnes mobilisées ce dimanche devant le commissariat de gendarmerie de Sisteron pour soutenir une colleuse féministe. Daniel Spagnou, le maire, a porté plainte contre cette dernière pour dégradation volontaire du bien d'autrui, causant un dommage léger et apposition d'affiches particulières en lieu réservé à l'affichage d'actes d'autorité publique. Choqué, le collectif féministe de Sisteron rappelle que le collage réalisé est éphémère, qu'il part avec de l'eau et qu'il ne constitue en rien une dégradation. Ce collectif estime que la réponse de l'édile de Sisteron est disproportionnée. Allons-nous vers une évolution du service de soins d'urgence dans le département des Alpes-de-Haute-Provence? Entre les urgences de Manosque qui sont fermées en nocturne une fois encore jusqu'au 17 février, les urgences de Sisteron qui connaissent des nuits sans SMUR et les urgences de Digne-les-Bains qui régulent aussi quelques nuits par an l'accès, la situation est plus que compliquée pour se faire soigner sur le territoire. Pour y remédier, l'ancien ministre de la Santé François Braun a été missionné pour proposer des solutions. Les premières conclusions, Nino Dalbera, ont été présentées aux élus.
Il faut déjà rassurer la population sur un point. Les services d'urgence vitale vont continuer à fonctionner 24 heures sur 24 dans les trois hôpitaux du département, Digne-les-Bains, Sisteron et Manosque. Gilles Dufour, le président du groupement hospitalier de territoire de Manosque, insiste sur ce point.
Les urgences vitales sont assurées dans notre département et que ce soit au centre hospitalier de Digne ou au centre hospitalier de Manosque, puisque le SMUR, service mobile d'urgence, fonctionne 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Donc les urgences vitales sont bien prises en compte sur notre département.
Rien de nouveau donc pour les urgences vitales. Pour les praticiens, au niveau de l'organisation des urgences, des dispositions vont être prises pour simplifier l'ensemble des logiciels informatiques et pour ramener les médecins près des patients en simplifiant l'administratif. C'est ce que relate Francis Kuhn, le président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Digne-les-Bains, qui annonce aussi du changement dans les accueils aux urgences de Digne et de Manosque.
Sur les urgences elles-mêmes, François Braun a considéré qu'il fallait absolument préserver la capacité des urgences de Digne à fonctionner H24, 7 jours sur 7. C'est le cas actuellement. Concernant Manosque, il y a du mieux, puisque les urgences de Manosque, à partir de début mars, vont être ouvertes jusqu'à 22h30, tous les soirs. Entre 20h30 et 22h30, ce sera plutôt de la régulation, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas venir librement, mais jusqu'à 20h30, on pourra venir librement.
Un élargissement des horaires à venir donc, avec en plus du renfort, le CHU de Marseille va partager un poste avec Manosque et avec Sisteron. Son édile, Daniel Spagnou, est plutôt satisfait des premières recommandations. Son hôpital et ses urgences qui dépendent du Chicas haut alpin sont toutefois concernés par les recommandations, car la régulation nocturne base alpine amène les patients soit aux urgences, soit auprès d'un médecin le lendemain, soit dans une maison médicale de garde. Manosque en a déjà une, Digne en projette une autre, mais pas Sisteron. Le maire Daniel Spagnou y est même plutôt opposé.
Ce genre de maison, il y en a une d'ailleurs à Foncalquier, et j'ai vu que le maire de Digne va en faire une. Il faut encore avoir l'accord des médecins généralistes, et ça c'est pas gagné d'avance, mais ça va affaiblir encore un peu plus nos hôpitaux de proximité, et ça veut dire que très vite, d'ici un an ou deux, ils nous fermeront les urgences carrément la nuit. Donc il faut se méfier, moi je ne suis pas favorable.
Enfin, parmi les mesures, l'ancien ministre confirme l'abandon de la fusion des SAMU 04 et 05. Un temps évoqué, le projet est donc définitivement écarté.
Merci Nino. Le ministre invite toutefois les deux parties à plus de transparence dans les procédures et à avoir une feuille de route commune publiée début avril pour une mise en route fin juin 2025. L'association Manosque Terre d'Avenir dénonce dans un communiqué l'attitude de l'opposition municipale. Cela fait écho au vote sur la baisse de la taxe foncière bâtie intercommunale. Selon l'association qui soutient le maire Camille Galtier, l'opposition, en choisissant de s'abstenir, s'est opposée à une mesure visant à réduire la pression fiscale sur les habitants. Il est également souligné que ce vote fait suite au décès décision prise par l'opposition quelques années auparavant, notamment sur son soutien à la hausse de la taxe foncière. Se présentant comme force de proposition, Manosque Terre d'Avenir affirme vouloir défendre une politique plus solidaire. L'aide au chauffage renouvelée cette année à Digne-les-Bains pour les retraités aux revenus modestes. Face aux difficultés économiques et à la hausse des coûts de l'énergie, la ville a annoncé le prolongement de ce dispositif mis en place par le CCAS. Il permet d'obtenir un bon de 160 euros. Pour en bénéficier, les demandeurs doivent être domiciliés à Digne et disposer de revenus annuels inférieurs à 12 145 euros pour une personne seule, 18 854 euros pour un couple ou un foyer. Les dossiers doivent être déposés avant le 15 mai prochain auprès du CCAS. Le président du COJO pour les Jeux Olympiques 2030, désigné avant le 18 février prochain, 5 jours après le retrait de Martin Fourcade, les représentants du ministère des Sports, des deux régions et des comités olympiques et paralympiques se sont retrouvés samedi pour tenter d'aller de l'avant. Est sorti de cet échange une volonté de trouver le candidat idéal pour présider le comité d'organisation en amont de l'Assemblée constitutive du 18 février. Une course de l'extrême sur laquelle est engagé un Ubaïen, Guillaume Grimat. L'ultra-trailer de 27 ans est juste derrière un autre tricolore, Mathieu Blanchard, sur une course polaire, la Yukon Arctic Ultra, course de 650 km de long qui se déroule au Canada. Ce dimanche soir, Mathieu Blanchard avait franchi le dernier ravitaillement situé à 71 km de l'arrivée. L'ultra-trailer de Barcelonnette, Guillaume Grimat, était lui 22 km derrière. Et enfin, Arthur Bauchet, sacré pour la 11e fois à Maribor en Slovénie. Malgré le changement de règles en raison de la domination du para-athlète haut alpin, cela n'a pas suffi. Arthur Bauchet conserve son titre mondial en slalom géant. Les épreuves en Slovénie sont perturbées. La descente, le super combiné et le super géant ont été annulés. Ce lundi, Arthur Bauchet est aligné en slalom paraski catégorie debout.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.